retour dans la discussion des hebdos avec Georges Anglade, et là c'est le Présidence 4, le quatrième hebdo de l'année, paru ce matin donc dans le Nouvelliste et daté du mardi 29 janvier. Comme d'habitude, je vais reprendre avec, ça vous êtes d'accord Georges, avec l'exergue que vous avez écrit et qui est paru. Donc cet exergue dit « Cette perspective nouvelle de pouvoir financer nous-mêmes nos propres projets stratégiques est d'une importance capitale sur laquelle il n'est pas nécessaire de trop élaborer. Reconquérir l'honneur perdu et la fierté bafouée en nous finançant nous-mêmes après nous avoir pensé nous-mêmes. » On s'était donc quitté, Georges, avant cet écran pub, sur donc l'International Crisis Group. Et là, pour une fois, n'est pas coutume, on va pas terminer par l'addendum, parce que dans votre addendum qui est paru donc ce matin, vous présentez ce groupe. Donc, avant d'aller plus loin, je vais peut-être vous demander de nous en dire plus, pour ceux qui ne le connaissent pas, sur l'International Crisis Group.
Ben voilà, quel est ce groupe ? Et on le définit dans l'addendum. C'est une référence mondiale de très grande renommée et une méga machine des plus respectées au monde actuellement qui a une antenne installée en Haïti depuis novembre 2004. Donc, en 30 mois, de novembre 2004 à juillet 2007, ce groupe a fait 10 rapports qui sont une sorte de chronique de politique contemporaine, qui sont une sorte de portrait politique. Ces 10 rapports sont faits, ce groupe est à Pillon-sur-Rue, à Musso, et les rapports sont gratuits, tout le monde peut les prendre. Ils sont d'abord en anglais, mais ensuite traduits en français, mais vous pouvez les avoir dans les langues dans lesquelles travaille ce groupe, et je crois que 35 langues à travers le monde. Et ce dont on parle maintenant, c'est du 11e rapport, ce qui est daté du 14 décembre 2007, dont la traduction française vient de paraître,
oui,
donc 28 janvier.
Oui, fin janvier, c'était prévu si aujourd'hui. Donc, ceux qui veulent peuvent donc se fournir ce rapport en français.
C'est un rapport d'une quarantaine de pages. Ça s'appelle « Construction de la paix en Haïti, inclure les Haïtiens de l'extérieur ». C'est un bilan songé, profond, qui ose, si vous voulez, s'attaquer à nos peurs diffuses et les plus inavouables, nos réticences les plus enfouies. Et si vous voulez, c'est une excursion de l'autre côté de notre miroir en ce qu'il dit. Et voilà ce qu'il faut faire. Alors, on peut revenir là-dessus. Je peux vous lire un peu ce qui a été dit. C'est d'autant nécessaire de le lire, c'est que, bon, il est en français. Il est facile d'accès, de lecture. Il est gratuit, c'est-à-dire à la disposition de tout le monde gratuitement, et que vous pouvez être sûr que tous les experts au monde et qui vont intervenir en politique et en réflexion vont lire ce rapport.
Ils vont se baser là-dessus, oui.
Oui, les rapports de ce groupe sont lus à l'échelle internationale. Et puis, c'est un modèle de rapport en plus, parce que ce n'est pas seulement une simple synthèse qu'ils ont eu à faire. Ils ont eu à aller dans toutes les communautés haïtiennes, questionner, rencontrer des gens dont ils parlent, dont ils disent les noms. Nous avons rencontré M. Intel en tel endroit, il a dit telle chose. Nous avons rencontré M. Intel en tel endroit, il a dit telle autre chose. Bon, donc, et c'est la qualité de la documentation et la manière dont tout ceci combine pour arriver à un grand rapport. Donc, pour nous qui avions l'habitude aussi de nous plaindre beaucoup du manque de puissance théorique ou conceptuelle, méthodologique ou programmatique des rapports qui s'empilent sur des rapports, ben voilà un rapport qui mérite d'être signalé pour ses qualités, et que c'était très intéressant de le recommander à tout le monde. Alors maintenant, que dit ce rapport ?
Voilà, c'est là où j'attendais. Donc, ce rapport, vous en dégagez 5 points, donc un raisonnement, et on va étudier donc d'une manière chronologique ces 5 points. Donc, le premier, on en a un peu parlé, c'est le temps.
Le problème. Alors, que dit ce rapport et que propose ce rapport ? Il dit, bon, d'abord, il fait des constats. Il dit, il reste 3 ans à Préval avant de passer la main en 2011. Et personne ne sait à qui ou à quoi va ressembler 2011. Personne n'ose se prononcer sur cette échéance. Maintenant, cependant, on peut construire un avenir à partir d'un certain nombre d'éléments. Et il faut travailler à construire cet avenir. Deuxièmement, ce dont on manque le plus dans la conjoncture en Haïti, actuellement, quel est leur constat ? C'est de la pensée stratégique. Il manque de pensée stratégique, et cette pensée vient généralement des vieux dans une structure sociétale, du haut de la pyramide, des seniors, qui ont une vie professionnelle consacrée à l'approfondissement, on avance comme si on n'avait pas de grands axes en éducation, de grands choix, de grandes visions. Et on dit, OK, il faut arriver à cette pensée stratégique. Ce n'est pas une pensée analytique, ce n'est pas une pensée d'accumulation. Non, c'est une pensée stratégique. En général, ce sont les seniors. Or, cet ensemble unique de seniors existe en Haïti. Mais il est, des Haïtiens existent, disons, de plus de 60,
oui.
Une centaine. Mais ils sont éparpillés à travers le monde, ils sont éparpillés dans les communautés, ils sont aussi éparpillés à travers le pays. Ils sont à Port-au-Prince, ils sont au Cap, ils sont au Caï, ils sont à Montréal, ils sont à Miami, ils sont à New York, etc. Que dit l'International Crisis Group face à cette dispersion? Eh bien, il dit, mais réunissez-les, regroupez-les pendant un an, donnez-leur les moyens d'avoir 3 grandes rencontres, qu'ils produisent un rapport sur 10 ans sur la pensée stratégique de ce qu'il faut pour pouvoir passer la vitesse supérieure,
oui.
Et utiliser ceci comme une grande réserve de pensée stratégique, puisque c'est là que le bât blesse. C'est un problème de vision, c'est un problème de pensée, c'est un problème d'idées. Il y a un problème de manque de mots et d'incapacité analytique de la situation et pour arriver à une pensée stratégique. Bon. Nous sommes au point 3, avant même d'aller plus loin, je m'arrête un peu, et c'est évidemment le constat que nous faisons quand nous regardons la situation haïtienne actuellement. Il y a énormément de, je dirais, dans la quarantaine actuellement, nos directeurs généraux, j'en parle souvent, ils sont de la 7e génération, nés entre 1960 et 1975. Nos 100 directeurs généraux et toute cette flopée de techniciens, de savoir qui sont vraiment extrêmement compétents, qui sont de très grandes compétences, de très grandes capacités. Mais ce n'est pas à ce niveau-là que se crée non plus la pensée stratégique. C'est-à-dire que c'est un étage plus vieux de seniorité. Donc il faut prendre, ça c'est sûr, mais il faut prendre les choses pour ce qu'elles sont. C'est-à-dire, et regarder comment se fait le maturissement, la pensée, l'équilibrage, la manière de synthétiser ensuite tout ceci. Et nous verrons que ces aînés d'une génération plus grande que ceux qui ont 40 ans, leur importance. Je vais dire que dans ma génération, quand nous autres nous sommes arrivés à commencer à essayer de penser le réel haïtien, ce qui m'a manqué moi pendant 40 ans, c'était les aînés.
Oui.
Sont été les aînés. C'est-à-dire que nous arrivions à 25-30 ans dans ma génération sans avoir cette pyramide qui avait été fauchée au-dessus de nous, ces aînés qui avaient été dispersés. On n'a pas eu ces guides.
Oui.
Et il nous a fallu nous jeter à l'eau pour ramer pratiquement envers et contre tout sans avoir de guide. Quand je me rappelle qu'avant 30 ans, l'espace haïtien était fait et qu'il n'y avait pas de maître pour guider, qu'il n'y avait pas de... Bon, maintenant, prenez un jeune géographe de 25-30 ans maintenant. Il a une génération au-dessus de sa tête de ses parents, je dirais, qui ont 40-45 ans. Nous avons flopé de géographes de 40-45 ans excessivement compétents. Et sur la tête de ces 40-45 ans, je parle pyramide en termes de tête, il y a un grand nombre de géographes qui ont entre 60 et 70 ans. Donc vous avez la tranche 40 ans, la tranche 65 et la tranche 25. Vous avez 3 générations, par exemple, de géographes qui pensent et réfléchissent sur la réalité haïtienne. Et bien, quand vous la mettrez tous ensemble, on va se rendre compte de l'infinie richesse que ceci va représenter entre la pensée stratégique, la technique qui est au point, la reproblématisation, le vieillissement, le choix des orientations, les encadrements. Et c'est à ce moment-là que vous faites pousser votre prise en charge. C'est ainsi qu'on agit aux États-Unis, au Canada ou en France, en Angleterre ou en Espagne. Et là, nous avons ces ressources-là, mais sauf qu'elles sont dispersées. Alors, ils nous proposent de les réunir pour y arriver. Proposition. Alors, ils font, c'est le point 4, ils font un ensemble de 16 propositions.
Oui.
D'abord au président, ils ne sont pas fous. Ils savent très bien que dans la culture politique haïtienne, c'est le président qui bloque et c'est le président qui débloque. C'est le président qui fait et le président qui défait. Donc, ils ne sont pas fous. Ils disent, ah, monsieur le président, voilà ce que nous vous proposons parce qu'au fond, c'est entre vos mains l'affaire. Vous avez les sous pour financer ça. Vous avez les gens qui sont là, vous avez la capacité de le faire. Faites-le comme vous voulez, mais faites-le. Faites-le avec qui vous voulez, mais faites-le. Et que l'on ait, si vous voulez, en débat, cette pensée stratégique. Et qu'une fois que cette pensée stratégique sera sur la table, les gens interviendront. Ils écriront dans les journaux,
oui.
Ils prendront la parole dans les radios. Mais nous nous mettrons à discuter de locomotives et non pas de wagons. nous nous mettrons à discuter de pensées stratégiques et d'options fondamentales. Au lieu de, actuellement, qu'est-ce que nous avons comme discussion publique ? La discussion publique qui nous ont entretenu 6 mois sur les sénateurs est finie, oui. Pas finie. Maintenant, CEP a démissionné, n'a pas démissionné, etc., etc. Ce n'est pas que ce ne soit pas intéressant, mais ne faire que ça est quelque chose qui commence à être lassant. Il nous faut passer à autre chose. C'est à cette autre chose dont les gens ont soif maintenant, et qui est réclamée, c'est ce que disent les gens. Passez donc à autre chose. Vous êtes suffisamment doté de moyens, suffisamment, monsieur le président, pour pouvoir prendre la décision de mettre 100 millions ici ou 100 millions là. Et vous savez très bien que c'est dans la caisse. Il suffit d'appeler votre ministre des Finances et de dire à gauche ou à droite et qu'il va le faire parce que c'est vous qui devez tout décider. C'est eux qui parlent, c'est pas moi. Alors, ils interpellent donc carrément. Et ceci en disant, si vous le faites pas, c'est parce que vous voulez pas le faire. Point. Bon, maintenant, et cinquième point.
Le cinquième plan. Oui, le rapport ne recule pas devant les vérités à dire. Vous dites, la diaspora fait peur aux blancs d'abord.
Ah ben oui. Tout au long de ces 30 à 40 pages que représente ce rapport, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'il y a toujours un filigrane entre deux phrases, entre deux lignes. Vous avez un certain nombre de remarques. Qui a peur de la diaspora ? Qui a peur par rapport à la Constitution, par rapport à ces pensées stratégiques? Pourquoi fait-on un barrage aussi grand? C'est une fausse réflexion. Il n'y a pas de... Ce ne sont pas des preneurs de job. Ils sont pas en train de venir pour prendre le travail des gens. Ce n'est pas vrai. Ils ne sont pas là pour menacer qui que ce soit. Ils pourraient arriver et être utilisés et utilisables. Il y a un grand apport à développer cette économie. Même ceux dont le métier, c'est de l'investissement, de faire travailler leur capital. Mais ce qui est tout à fait légitime, nous avons besoin d'un groupe d'investisseurs qui produisent le travail et qui fassent rouler la machine. Mais on n'a pas besoin d'un groupe de flibustiers ou de pirates. Vous voyez, c'est le problème. Mais créons les conditions pour que cette honnêteté fiscale, cette justice fiscale puisse se faire et puis se mettre en place. Et les gens marcheront. On n'a pas besoin de coincer une élite à 2%. Elle pourrait être de 20% en s'élargissant. Alors, ce sont toutes les conditions de ceci. Alors, à travers le rapport, il y a plein de petites vérités de ce genre qui glissent là. Mmh. Et ils disent aux Blancs en Haïti, la communauté dite internationale, arrêtez donc d'avoir peur des diasporas. OK. Quand ils arrivent, évidemment, ils challengent énormément, ils discutent, ils posent des questions, ils interrogent. Ça peut déséquilibrer, ça peut paraître un peu... Mais ouvrez, vous allez voir. Et ils disent, la 7e génération, elle est très heureuse. Elle est très contente d'avoir des gens de 30 ans plus vieux que la 7e, donc la 6e, 30 ans plus vieux, et qui leur jouent le rôle de père, d'orientateur. Quand on a 40 ans et qu'on parle à quelqu'un de 65 ans, on est dans une situation très positive. Il n'y a pas à le menacer ni quoi que ce soit. C'est-à-dire, c'est deux enjeux totalement différents.
Oui, surtout que l'écart en connaissance peut être assez intéressant venant de la diaspora et d'un haïtien, mais l'écart en âge n'est finalement moins en moins important suivant l'évolution que l'on a.
Donc ils analysent la figure paternelle et la Constitution va en prendre pour son grade. Oui, si vous ouvrez ça, il faut l'ouvrir aussi pour mettre cette Constitution en harmonie avec ce qu'est ce pays. Avant toute chose, avons-nous un pays de 15 millions d'Haïtiens, de 14 millions d'Haïtiens, c'est-à-dire intérieur et extérieur mêlés? Mêlerons-nous de toutes nos entités? Et qu'est-ce que ceci signifiera pour tout le monde, notamment et avant tout pour ceux qui sont sur la terre-mer, les 10 millions qui sont sur la terre-mer? Donc comment arriver à repenser tout ça à fond? Et cette Constitution, évidemment, a un besoin fou, parce qu'il a été créé quand même en 87, au sortir d'une dictature de 30 ans, qui était une présidence à vie, qui a été créée sous un gouvernement militaire, avec des apports qui sont arrivés de partout et qui n'ont pas été acclimatés. C'est-à-dire qu'ils arrivaient partout dans le monde et puis arrivaient avec des trucs qui avaient très très bien marché en Italie ou au Venezuela. Et puis tout ceci se retrouve globalement, on a retrouvé des ombudsman, etc. Je me demande jusqu'à présent quel est celui qui a pensé la géographie de cette constitution, parce que c'est une énorme aberration géographique, c'est-à-dire la manière dont nous avons pensé la maille de ce pays vu par la Constitution, ça ne tient absolument pas la route. D'ailleurs, depuis 20 ans, elle ne tient pas la route, tout simplement parce que c'est une grande aberration. Bon, donc il faut oser pouvoir dire ça. Tout ceci aussi est glissé à l'intérieur du rapport. Il sait que la présidence et la primature voudraient utiliser ces ressources-là en les faisant taire le plus possible, mais il sait aussi que les jeunes de 20-30 ans auraient envie de les entendre le plus possible.
Tout à fait.
Donc qu'il y ait le plus de radio à en parler, qu'il y ait le plus d'hebdo à s'écrire, qu'il y ait le plus de médias à s'impliquer. Donc voilà et ce que dit aussi ce rapport et le message qu'envoie ce rapport. Je pense que ça devrait être le rapport du mois de février, que tout le monde devait prendre ce rapport-là et le lire, en débattre, en discuter et, disons, prendre 50% de tout le temps que nous consacrons au CEP, au Sénat, aux élections qui s'en viennent et puis mettre ce 50% sur ce rapport, ça nous ferait grand bien.
Oui, je suis entièrement d'accord avec vous, Jean, là-dessus. On dit que aussi entre le faisable et le bancable, mais on voit très bien que là actuellement nous sommes au milieu, je dirais, nous sommes sur une interarticulation parce que vous faites la balance entre le privé et le public, l'intérieur, l'extérieur, le national, l'international. On sent très bien que là actuellement nous sommes à la jonction, nous sommes sur une articulation quand même.
Oui, on est à un moment de grande jonction pour avancer et pour avancer sur la pensée stratégique. Qui est seul capable de nous guider à la vision d'avenir que nous cherchons à dire. Et la vision d'avenir n'est même pas pour la génération au pouvoir actuelle. La vision d'avenir de la génération au pouvoir, c'est le cimetière extérieur de Port-au-Prince. C'est-à-dire que c'est une génération qui, dans 10 ans, s'éteint. C'est fini, la 6e. Donc, c'est penser le pays, penser le tricentenaire pour la 7e génération qui cavalcade derrière et l'intergénération entre la 7 et la 8. La 7e et l'intergénération. Donc, c'est penser pour une génération qui s'en vient et quelles sont les conditions d'exercice de cette génération qui monte. Elle monte dans un monde où les Haïtiens sont partout dans le monde. C'est la carte maîtresse dont nous avons parlé. C'est une carte éclatée des Haïtiens dans le monde. Les 10 millions au pays et puis bon, les 3, 4, 5 millions qu'il y a à l'extérieur en 3, 4 générations, donc opérationnelles. Les 2 milliards qui sortent de l'extérieur, qui rentrent, mais qui pourraient passer à 3-4 milliards si nous savions penser, si vous voulez, ne serait-ce que ce va-et-vient entre intérieur et extérieur. Penser ce va-et-vient en termes d'un tourisme articulé, et ça marcherait. Mais ceci, il faut le mettre en place aussi, il faut avoir cette vision. Et puis la dynamique, attention, le rural, c'est 7 millions de ruraux en marche.
Oui.
Et la paysannerie n'est plus accrochée à sa terre parce qu'elle ne l'a plus. Il y a 51 endroits par hectare. Nous ne produisons pas parce que, bon, ça n'arrive pas. Et ce n'est pas pour rien que nous ne produisons pas 1,2 million, que nous ne produisions pas des poulets. C'est que, bon, tout simplement, nos structures se sont effritées. Il faut refaire le tissu et nous n'y arriverons pas pour le tricentenaire. Pensez le tricentenaire, nous n'y arriverons pas si... Nous ne pensons pas le tricentenaire, mais avec une vision grande stratégique. Qui est responsable de ça? Voilà la grosse question. Vous voyez, le mois de février qui s'en vient, il va falloir dire la Constitution a prévu qui est responsable de cette animation de pensée stratégique, animation de ces orientations. Comment il y a eu un partage de pouvoir et comment ça s'est fait dans l'histoire? Ce genre de partage entre, si vous voulez, si vous continuez toujours dans charmeur-dompteur, c'est une job de dompteur, c'est-à-dire ce qui a été confié aux institutions, à la primature, etc., etc.
Oui, on arrive là à une sorte de vacances quand même là-dessus et à déterminer les responsabilités. C'est un autre chapitre. On a terminé donc, Georges, sur cet hebdo. On va, étant donné que là, on a terminé quand même sur la présidence 4, donc on a terminé avec ce point sur le contrat à bord 2011 et donc cette proposition internationale. Est-ce que l'on peut présenter ce que va être la prochaine session, tout en sachant que la semaine prochaine, pour cause de carnaval, donc, je l'ai dit tout de suite, il n'y aura pas donc de discussion des hebdos sur Magic 9, étant donné que le pays sera en pleine fête carnavalesque. Donc, on reprendra ça, bien entendu, dans 15 jours. Mais est-ce que l'on peut déjà pour nos auditrices et nos auditeurs qui soient gâtés, justement, rejeter un coup d'œil sur ce qui va terminer le mois de février.
Alors, le mois de février va essentiellement être consacré à l'État et le gouvernement. Replaçons-nous dans le cheminement que nous avons suivi depuis juillet. Nous allons faire des hebdos, c'est le 8e mois, donc nous avons couvert 7 mois, et les 4 hebdos du mois de février vont dire, bon, on conclut. On conclut sur la méthode, on conclut sur cette réflexion théorique, quels étaient les outils dont nous avions besoin pour passer aux applications concrètes. Il reste à parler de l'État et du gouvernement. Il reste à parler, si vous voulez, de... Comme nous l'avons fait pour la gouvernance en allant droit au but, au point de centre de gravité, quand nous parlons de l'État, de la fonction publique, du gouvernement, etc., quelle est la chose la plus importante? Eh bien, en quoi consiste le job de Premier ministre? Quelle est la tâche exacte du président de la République? Et être président de la République, quels sont les termes de référence de son contrat? S'il y en avait un, on lui dirait « quelle est ta tâche ?» etc. En quoi consiste la mission sectorielle de l'État ou la mission structurelle de l'État? Au fond, ce qui est absolument nécessaire pour nous de clarifier, c'est quoi l'État? Et en quoi consiste la mission de l'État? L'État haïtien, pour que le souverain face à l'État, dont nous parlions dans la couleuvre, face à l'État le sache. C'est-à-dire il y a des missions de souveraineté qui sont essentiellement le domaine réservé de la présidence. Ce sont les missions de souveraineté. En quoi ça consiste? Quels sont les éléments? Il y a des missions structurelles. Mais les missions structurelles de l'État, qui sont la justice, l'économie, le politique, enfin la territorialité, la maille dont on va voir, ils ont pour fondement, ce sont les fondements de la démocratie et du développement. Pour qu'il y ait développement et démocratie dans une société, puisque c'est une mission de l'État, de commander cette démocratie et ce développement, eh bien, ce sont les missions structurelles. Comment est la structure de base de ce pays? Comment se la représenter? Comment la voit-on, cette structure-là? Et quels sont les trois éléments clés de cette structure? Tandis que les missions sectorielles, c'est ce sur quoi l'on parle tout le temps, c'est la justice sociale et l'investissement humain.
Ben, voilà.
Bon, c'est-à-dire donc l'école, la formation, les établissements humains, les interventions. Donc il ne faut pas confondre. Les missions structurelles ne sont que de l'application des missions qui sont donc de la démocratie et du développement.
Oui, bien sûr.
Et puis, c'est quoi le job du Premier ministre? C'est-à-dire, c'est au niveau de la coordination, telle que définie par la Constitution et des institutions. Quelle est sa mission de coordination? Cette mission d'initiative, de dynamisation, d'orientation stratégique, de vision et de mettre en place les chantiers. Parce que c'est la responsabilité des grands chantiers de l'État appartiennent à cette vision stratégique. Donc, nous aurions dû, nous devrions être habités actuellement de grosses réflexions sur où l'on s'en va dans les cités. Que va-t-il advenir de ce parcellaire agricole et des 6 millions en marge à Port-au-Prince? Comment repenser ce Port-au-Prince dans cette quatrième métamorphose? Quel est, du point de vue méthodologique et du point de vue de l'application, ce qu'on fait des petites filles, par exemple, ou de l'université? Ouais, nous avons un certain nombre de chantiers qui collent aux missions. C'est pourquoi on pourra parler des chantiers après. Mais ce mois de février-là, c'est le tournant. C'est, si vous voulez, le tournant, c'est la finale, c'est-à-dire c'est où l'on délivre la démarche que nous avons tranquillement suivie dans l'hebdo, qui était, dès le départ, on savait, on disait, on va essayer ensemble de penser le tricentenaire. Quels sont les éléments qu'il nous faut pour le faire? Eh bien, le dernier groupe d'éléments, c'est février, ce sont l'État.
L'État.
C'est l'État. C'est la couleuvre. C'est l'État. Ouais. Comment, quelles sont ses missions? Et comment applique-t-on ces missions?
Voilà. Et comment ça s'articule?
Face au ministère, comment ça s'articule, effectivement, etc.
Eh bien, on va voir tout ça, Georges. Et donc, ça sera le premier élément. Il y en aura
quatre. Il y en aura quatre.
Quatre comme présidence. Donc, ça débordera, bien entendu, sur le mois de mars. Étant donné que, dorénavant, nous allons nous retrouver donc le 12 février, à cause donc du carnaval, le 12 février sur donc l'hebdo qui sera paru à ce moment-là, le 11 février, dans le Nouvelliste.
Donc, peut-être qu'on en prendra deux ensemble.
On
verra comment faire.
On verra comment faire. Mais donc, Georges, j'étais de nouveau ravi de pouvoir discuter avec vous pendant pratiquement une heure sur cette présidence 4, d'avoir terminé cet angle d'attaque et de pouvoir donc dans pratiquement 15 jours donc commencer vraiment les choses avec la prise de l'État numéro 1.
C'est ça. Et je dis que la série sur l'État, les 4, ce sont les boules de l'État. Le grand titre, comme nous avons dit, présidence 1, 2, 3, 4, ce seront les boules de l'État.
Ça, je préférais que ce soit vous qui le disiez que moi, Georges.
Voilà.
Ça sera beaucoup plus sérieux si c'est vous que si c'est moi. Donc, Georges, j'ai le plaisir de vous souhaiter de passer un bon carnaval quand même.
Merci beaucoup. C'est ce que je souhaite à tout le monde, que le carnaval soit, puisque c'est un grand geste de culture nationale, le carnaval soit donc le plus joyeux pour tous avant de rentrer au mercredi décembre dans une période de carême.
Voilà, et sans oublier aussi nos amis de la diaspora, et je sais que notamment dans certaines régions à diaspora, mais je sais aussi qu'à Paris, mais bien entendu à Montréal, on fêtera aussi le carnaval haïtien.
Ah oui, mais absolument.
Et on n'oublie pas la diaspora, étant donné que nous sommes pratiquement les seuls à en parler régulièrement ici.
Oui, et puis je terminerai là-dessus. Et à Montréal, bon, puisque les gens savent que j'ai une grande présence montréalaise aussi. Et alors, comme il fait très très froid en ce mois de février et que les Haïtiens ne veulent pas sortir, ce qu'ils ont fait, ils ont tranquillement pris leur carnaval de février et ils l'ont flanqué au mois de juin, à la fin du mois de juin. Ce qui leur permet d'avoir un méchant carnaval, mais il est au chaud.
Oui.
Donc, c'est le 24 juin que se tient le carnaval haïtien.
Oui, parce que c'est pas évident de danser dans les rues pleines
30,
de neige et moins 30.
À moins 30 degrés, ça gèle un Haïtien.
Effectivement.
Ça vous gèle un Haïtien.
Eh bien, merci Georges.
Merci
bien. Puis on se retrouve donc dans 15 jours.
Dans une quinzaine. Et merci à tous de l'écoute, de la qualité de l'écoute. Merci aussi derrière la vitre
à notre ami Ronald qui nous met en onde. C'est pas Grégory cette fois-ci, c'est
Ronald qui
nous met en onde sur cette émission. Merci à tous. Au revoir.
Merci à tout le monde. Au revoir.